L'Happy Hour scientifique.
C'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Avec bonne santé, les gueux.
Bienvenue, Dominique.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h01, nous sommes le jeudi 26 mars et vous écoutez l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris. En 2026, nous sommes plus de 3,32 milliards de joueurs recensés au niveau mondial. Le jeu vidéo, car ce sera notre sujet ce soir, est devenu un loisir incontournable pour un bien grand nombre d'entre nous. C'est vrai, qui ne connaît pas Nintendo, la PlayStation, la Xbox, Steam ou simplement le Play Store et l'incontournable Tetris? Et je ne sais pas si vous connaissez l'âge moyen du joueur en France, mais vous risquez comme moi d'être surpris en l'entendant, c'est 40 ans. Et oui, nos darons aussi, ce sont des geeks. Et puis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais question jeux vidéo, il y a eu une sacrée actu. Vous vous souvenez du jeu Pokémon Go? Pour ma part, ça remonte à quand j'étais au lycée. On devait courir partout dans la ville pour capturer des Pokémon. Le principe était simple, dégainer son smartphone pour prendre une photo d'un lieu précis pour attraper un Pokémon. Un moyen très ingénieux pour la société américaine Niantic qui a créé le jeu de récupérer pas moins de 30 milliards d'images cartographiant le monde entier. Et est-ce que vous savez ce que la société en fait de ces photos? Eh bien, ils entraînent des IA. Début mars, Niantic a annoncé un partenariat avec Coco Robotics, une plateforme de livraison qui utilise des robots. L'idée est que ces photos que vous avez prises permettent aux robots de se déplacer avec une plus grande précision dans les rues. Alors, je sais pas ce que vous vous en pensez, mais je suis certaine que certains trouveront ça révoltant et d'autres du génie. Mais quoi qu'il en soit, cette polémique ne fait a priori aucun tort à la législation, puisque la politique de confidentialité indique explicitement une réutilisation des données par des partenaires. Mais revenons à notre émission, et ce soir j'ai le plaisir de vous présenter notre héroïne experte des jeux vidéo, Laura, environnement artiste. Depuis plusieurs années, tu travailles dans une boîte de production, développement et édition de jeux vidéo, alors sors tes meilleures armes pour ce soir, car on va pas se retenir de t'assaillir de questions. Évidemment, notre jeu ce soir serait bien triste sans une armée de PJ. C'est pourquoi je vous présente notre Lara Croft de la soirée, Jade, qui nous présentera dans une aventure intrépide les actus scientifiques.
Bonsoir.
Anna, notre Ziggs qui va bombarder de questions.
Bonsoir.
Laetitia, notre princesse Peach à la chronique nostalgique.
Bonsoir.
Tama, que l'on retrouve un peu plus tard, notre Pac-Man de la soirée qui viendra nous divertir avec son jeu. Et pour finir, Sarah, notre boss finale Malenia de la soirée.
Bonsoir.
Et sans eux, le jeu serait éteint. Ils sont aux manettes ce soir, ce sont Emma et Jocelyn à la régie.
Coucou.
Et on commence tout de suite, Jade, une petite gorgée, ça te dit?
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça?
Et c'est parti pour la gorgée de science. Commençons par partir dans les étoiles. Une équipe scientifique internationale comprenant 3 chercheurs de l'Observatoire de Paris ont observé la formation de 2 planètes entourant une jeune étoile. Celle-ci est baptisée WISPIT 2. Ces observations indiquent que ce système pourrait s'apparenter à un jeune système solaire. WISPIT 2 est seulement le deuxième système connu après PDS 70, où 2 planètes ont été directement observées en train de se former autour de leur étoile hôte. Grâce à ces observations, les astronomes espèrent mieux comprendre comment les jeunes systèmes solaires planétaires évoluent vers des systèmes matures comme le nôtre. Continuons dans le domaine de la physique. Au CERN à Genève, les scientifiques ont réussi pour la première fois à transporter de l'antimatière en camion. Ça paraît assez fou, mais savez-vous ce que c'est de l'antimatière?
Je pense que ça répond à ta question.
Ouais, et bien c'est une matière très spéciale qui disparaît immédiatement au contact de la matière normale en libérant de l'énergie. Le défi, c'est donc de la garder isolée sans qu'elle touche quoi que ce soit. Pour ça, ils utilisent une sorte de boîte ultra sophistiquée avec des champs magnétiques qui maintiennent les particules en suspension sans contact. L'intérêt de la transporter, c'est de pouvoir faire des expériences ailleurs que dans le laboratoire où elle est produite et donc mieux comprendre les différences entre matière et antimatière. C'est une première mondiale parce que c'est une substance extrêmement difficile à manipuler, même dans un labo. Alors dans un camion, c'est encore plus complexe. Passons maintenant aux actualités en médecine. Une équipe scientifique américaine a conçu une application permettant aux dentistes munis d'un simple smartphone d'identifier un risque de cancer dans la cavité buccale, en quelques minutes. Grâce à l'intelligence artificielle, l'outil analyse les images pour repérer les lésions suspectes que l'œil humain pourrait ne pas voir. Encore au stade de prototype, cette technologie pourrait aider les dentistes à détecter plus tôt ces cancers, qui sont souvent diagnostiqués tardivement. L'objectif est donc de faciliter le dépistage et d'améliorer les chances de guérison grâce à un diagnostic plus précoce. Et pour finir, les scientifiques ont dévoilé un nouveau groupe sanguin 50 ans après la dernière découverte. Quand on vous dit groupe sanguin, vous pensez spontanément au groupe O, A, B ou AB. Ce sont en effet les plus connus, pourtant il en existe en réalité beaucoup plus. À votre avis, il en existe combien?
Beaucoup.
Je dirais 10.
Okay. Je pense plus.
J'étais persuadée qu'il y en avait 4, alors.
Non. Il en existe 380.
Oh,
et,
wow.
certains sont très rares, ce qui peut rendre difficile la prise en charge des patients les possédant. Après 50 ans de mystère et de recherche, c'est le nouveau groupe sanguin qui est appelé MAL. Et donc cette découverte permet d'améliorer les soins médicaux pour ceux possédant des groupes atypiques. On parle de groupe sanguin rare lorsque ça concerne moins de 4 personnes sur 1000. Et c'est déjà fini pour la Gorgée Science. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Jade pour ce petit tour des actualités scientifiques. Et ce que je propose pour se mettre en jambe, c'est que nous servons quelques shots à notre invité. Et qui de mieux pour servir un coup que la pétillante Anna?
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Alors, le principe est très simple, répondre à plus de questions en une seule minute.
Ok. Le meilleur jeu au monde selon toi?
Pour moi, c'est les Mass Effect 3.
Le plus beau?
Clair Obscur.
Le plus original?
J'ai pas de...
Quelle est la meilleure heure pour jouer?
19h.
L'IA dans les jeux, c'est oui ou c'est non?
C'est oui.
Et la retraite de la récompense de Clair Obscur au Indie Games Award, d'accord?
Non, pas vraiment. Okay.
Ta streameuse préférée?
Bagheera Jones.
Est-ce qu'on pourrait considérer le jeu vidéo comme un art?
Oui.
Le premier jeu auquel tu as joué?
Star Wars Knights of the Old Republic.
Est-ce que tu es mauvaise joueuse?
Non.
Et c'est déjà fini, bravo.
Félicitations. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je propose qu'on revienne un peu plus sur ton travail. Donc Laura, tu es environnement artiste dans le jeu vidéo. Alors je pense que pour nombre d'entre nous, ce métier c'est un peu flou. Alors pour comprendre, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais commencer par nous expliquer quelles sont les grandes étapes de la conception d'un jeu vidéo jusqu'à sa mise en ligne.
Ouais, bien sûr. Donc pour créer un jeu vidéo, donc déjà il faut venir avec une idée, un concept. De là commencent à être établies d'autres idées, d'autres concepts, notamment du game design, des recherches graphiques. On commence à créer donc la charte graphique et de là, on embauche des artistes. Vous avez le caractère artiste qui va s'occuper des personnages, l'environnement artiste qui va s'occuper notamment des décors. Vous avez également tout ce qui est effets spéciaux qui est également un autre métier. Et vous avez d'autres développeurs qui sont là pour faire la programmation, pour être sûr que le jeu se développe bien avec... Sur le moteur de rendu, et qu'il y ait des idées originales, notamment pour le combat, pour ce qui se passe dans le jeu, créé par des game designers, des level designers.
Et donc toi, dans cette grande chaîne, si j'ai bien compris, en tant qu'environnement artiste, ton objectif, c'est de créer les décors. Est-ce que
c'est
tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement?
Oui, bien sûr. En fait, on démarre au début donc, avec une idée souvent venue du directeur artistique ou des concept artistes. Ils vous présentent souvent une image de ce à quoi le jeu peut ressembler. Et en tant qu'enviro, au début, on va juste commencer avec ce qui s'appelle du gray block. On va mettre des boxes qui n'ont pas de texture pour avoir les formes générales de ce que l'environnement va ressembler. Et ensuite, on va venir modéliser, texturer, habiller la zone avec des assets, des meshes qui vont être plus travaillés, plus sophistiqués. Et selon le jeu sur lequel vous faites, les assets peuvent aussi être des assets 2D.
Quand tu parles d'assets, c'est quoi exactement?
Ça correspond à la fois à un personnage, à la fois à un petit caillou sur le sol. C'est en fait ce qu'on appelle un mesh en général, c'est un objet.
Et du coup, globalement, comment tu fais pour rendre tous ces décors réalistes au possible? Parce que quand on regarde les jeux, moi aujourd'hui, je suis époustouflée par le réalisme de certains graphiques. Comment vous faites pour réaliser ça?
Alors, il y a plusieurs choses. Donc, à la fois, c'est... Donc, on travaille la modée pour que ce soit au plus réaliste possible. pour ça, on est très inspiré de simplement de la réalité de base. On se base beaucoup sur des photos de référence. On va travailler la texture pour qu'elle soit aussi proche que possible de la réalité. Je veux dire, par exemple, si vous avez un endroit volcanique, votre pierre ne sera pas pareille que celle d'une pierre de forêt. Mmh. Donc, vous allez travailler pour qu'il y ait plus d'érosion sur cette pierre, qu'il y ait l'effet de la chaleur qui ait abîmé la pierre. Elle ne va pas être aussi tranchante que, qu'une pierre dans... Enfin, il y a des roches volcaniques comme en Islande qui sont très tranchantes, puis il y en a aussi qui sont très soft. On travaille également du coup avec du scan. On récupère donc des assets 3D qui ont été scannés par photogrammétrie et on les place dans l'environnement aussi. Et sinon, c'est beaucoup d'étapes de recherche sur la texture que peut avoir tel ou tel objet, tel ou tel asset et sa forme.
Mais du coup, si je comprends bien, pour réaliser ce réalisme, tu es obligé de t'inspirer des phénomènes minéralogiques qu'on peut avoir dans notre monde, mais du coup aussi certainement de phénomènes physiques ou de phénomènes chimiques aussi.
Exactement. En fait, on s'inspire énormément de la réalité. Pour, par exemple, pour tout ce qui est physique, il y a à la fois donc, dans les rendus de certains objets, vont être affectés par leur environnement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement plutôt humide, vous allez avoir des champignons par endroit, donc vous réfléchissez à quel type de champignons peut y avoir. Surtout quand c'est inspiré de certaines zones, en particulier dans le monde, c'est-à-dire que si vous allez faire un environnement du style forêt tropicale, vous allez regarder quel type de plantes tropicales il existe et vous allez le plus possible reproduire celles que vous retrouvez dans ces forêts. Et on s'inspire aussi également de tout ce qui est physique, rien que dans le moteur permet de faire des rendus physiques aussi, notamment l'animation sur la végétation va réagir différemment si la végétation est humide ou si elle est plutôt sèche. Tout ça, c'est dans le moteur de rendu. On a donc un aspect très physique qui calcule pour nous aussi des fois certains aspects beaucoup plus réalistes qui ont besoin d'être recherchés.
Donc en fait, derrière, il y a tous les personnes qui ont travaillé en environnement, etc., qui ont constaté le réel pour pouvoir aider derrière à la réalisation de ces jeux vidéo.
Ouais, c'est bien ça. C'est qu'il y a beaucoup de développeurs en fait qui essayent de pousser l'écran à chaque fois un peu plus loin pour avoir un aspect beaucoup plus réel, beaucoup plus avec le plus de détails possible. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des moteurs de rendu comme Unreal Engine qui a développé des outils comme Nanit. Nanit, c'est ce qui vous permet d'avoir un maillage sur vos objets beaucoup plus dense et donc d'apporter beaucoup plus de détails qu'avant et ça vous optimise le rendu sans pour autant faire laguer votre jeu.
Ok. Et je me posais une question. Pour les mondes ouverts, est-ce que c'est différent le traitement de l'environnement ?
C'est un peu différent dans le sens où vous avez une beaucoup plus grosse portion à gérer que quand c'est des jeux à couloir. Vous avez donc beaucoup de choses à réfléchir sur comment un biome dans votre environnement va réagir sur un autre.
Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est du coup un monde en couloir et un biome ?
Bien sûr.
Parce que là, je crois que tu utilises des termes que tout le monde ne connaît pas.
Un monde en couloir, c'est quand vous avez une map déjà tout à fait définie, qui a un chemin qui a été créé par un level designer qui va vous emmener d'un point A à un point B. Ça va peut-être vous faire monter, descendre des escaliers, ça va peut-être vous faire passer dans un tunnel. Dans tous les cas, il y a une intention de direction à vous emmener. Un monde ouvert, on vous dit pas, on va pas vous prendre par la main pour vous dire d'aller à droite ou à gauche. C'est vous qui décidez. Pour ce qui est des biomes, donc c'est de la végétation. Enfin, les biomes, c'est une atmosphère, on va dire. C'est-à-dire que un désert est un biome, une forêt est un biome. C'est vraiment des aspects différents de la nature dans la réalité. Et ensemble, elles peuvent avoir des interactions et donc interagir différemment. Et aussi, on peut en créer des fantastiques qui n'existent pas dans la réalité, comme par exemple créer des villes qu'on connaît dans notre réalité, mais qu'on modélise un peu différemment et qu'on apporte notre touche de créativité dessus.
Et justement, pour ces plantes qui n'existent pas et que vous imaginez, que vous créez, est-ce qu'il faut quand même qu'elles soient réalistes au point qu'elles puissent exister dans un monde un peu imaginaire qui est le nôtre ? Est-ce que biologiquement et physiquement parlant, elles respectent les règles de la nature dans lesquelles on vit, ou ça, c'est pas quelque chose pour lequel vous vous préoccupez ?
Tout dépend, je pense, du jeu que tu vas faire. C'est-à-dire que si c'est un jeu plutôt réaliste, oui, on va essayer de s'inspirer d'une une architecture entre guillemets de végétation, c'est-à-dire que ben généralement nos plantes, elles ont une tige, elles ont une feuille, comment elles réagissent, on va essayer de créer autour de ça. Mais des fois, selon l'envie du jeu vidéo, selon la direction artistique, on peut partir sur quelque chose qui n'a pas de sens dans notre réalité à nous, puisque on est libre de créer ce qu'on veut. Et du moment où vous avez de l'imagination, vous pouvez créer n'importe quelle idée, n'importe quelle plante.
C'est impressionnant. Enfin, il faut avoir l'idée quoi, de concevoir. Moi, je pense pas que je serais capable de concevoir comme ça une plante qui n'existe pas. Mais je me demandais aussi une dernière chose, c'est le traitement de la lumière, parce que dans les jeux, on voit des fois que les journées passent, donc la lumière évolue dans le jeu comme elle évolue dans notre monde, sauf que ça impacte tellement de choses, les ombres et autres. Est-ce que, du coup, c'est aussi, ça fait partie de ton travail de gérer aussi les impacts de la lumière sur le décor ?
Il y a une partie de mon travail qui est ça, sinon il y a également des gens spécialisés dans ce domaine-là qui s'appellent des lighting artists, mais également nous, en tant qu'environnement artiste, on doit par moment poser des lumières pour soit redonner une intention sur un objet en particulier, c'est-à-dire que, par exemple, vous voulez qu'un un joueur emprunte un certain chemin pour votre quête, bah vous allez plus penser à mettre de la lumière le long du chemin que vous voulez qu'il emprunte plutôt que celui qu'il ne va pas emprunter. Il y a beaucoup de choses que la lumière guide, notamment beaucoup, ça guide énormément le joueur sans qu'on s'en rende compte. Et il y a, donc on fait partie de ceux qui posons aussi un peu ces lumières-là pour donner des intentions. Et le cycle jour-nuit, oui, c'est encore quelque chose d'autre à gérer, qui impacte également ben, le rendu sur les environnements, puisqu'il faut réfléchir à la fois à comment votre environnement rende sous la lumière du jour, mais également, quand il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui fait que vous pouvez voir ce qui se passe ? Parce que s'il n'y a rien, vous verrez juste du noir.
C'est pas très pratique, quoi.
Non. Ouais. Donc, alors, voilà.
Merci beaucoup pour ces réponses. Je propose maintenant à tous et à toutes une petite pause musicale. Et pour garder notre ambiance jeux vidéo, je vous propose d'écouter End of Line des Daft Punk, une musique tirée du film Tron Legacy. Thank you. toujours sur l'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris. Et ce soir, nous discutons toujours autour du jeu vidéo. Je remercie encore Laura de nous accompagner ce soir tout au long de l'émission.
L'Happy Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
Et si vous entendez une voix masculine, c'est normal, Tama nous a rejoint sur le plateau.
Bonsoir. Non, ma vraie voix n'est pas comme ça.
Et ce soir, Laetitia, tu vas nous présenter une chronique apparemment nostalgique.
Oui.
Le micro est à toi.
Les jeux vidéo et moi, c'est une grande histoire. Une histoire qui commence assez tôt. Et franchement, qui ne s'est jamais vraiment arrêtée. J'ai eu de la chance, faut le dire. Quand j'étais plus jeune, mes parents ont offert à mon petit frère, Kylian, petite dédicace, et moi, deux Nintendo 3DS. Et là, clairement, c'était fini pour nous. On était H24 dessus. Mario Kart, Super Mario Bros, Super Mario 64, Mario et Luigi, les frères du temps. Bref, vous avez compris, notre truc à nous, c'était Mario. C'était presque une tradition à la maison. Mais on ne jouait pas qu'à ça. Il y avait aussi Tomodachi Life, les Sims, Animal Crossing, des jeux où tu peux créer ta vie, en inventer une autre, faire un peu n'importe quoi aussi. Et avec du recul, je pense que c'est là que j'ai commencé à aimer cet univers. Parce qu'il te laisse une liberté énorme. Comme si tu t'évadais de la réalité, que tu construisais ton monde à ta manière. Puis un jour, on a eu accès au PC de notre père. Ce fut le Saint Graal pour Laetitia et Kylian de 11 ans. On découvre Steam, et franchement, c'était game changer. Littéralement. Assassin's Creed, Far Cry, Red Dead Redemption, Minecraft. Les jeux un peu incontournables, ceux qui te font dire « Allez, encore 10 minutes !» Et en fait, il est 2h du mat. Arrivé au lycée, j'avoue, j'ai un peu lâché. Moins le temps, d'autres priorités. Enfin ça, c'était jusqu'à Fortnite. Parce que oui, Fortnite m'a clairement replongé dedans. Sur Switch, évidemment. Ouais, parce qu'entre temps, j'avais réussi à convaincre mes parents d'en acheter une. Et là, c'était reparti. Les games à répétition. Les soirées à jouer sans voir le temps passer. Et en vrai, c'est ça que j'adore dans les jeux vidéo. C'est que ça te coupe du reste, ça te fait souffler, ça te met dans une bulle où t'oublies un peu tout. Puis la fac est arrivée. Et là, je suis revenue vers les jeux, mais un peu différent cette fois. Tomb Raider, Alien Isolation, Detroit Become Human, Life is Strange. Des jeux plus posés, plus narratifs. Ici, tu joues plus juste pour gagner ou passer un niveau, mais pour ressentir quelque chose. Au final, je me rends compte que cette chronique, c'est un peu une déclaration d'amour. Parce que les jeux vidéo, ça m'a suivi à plein de moments différents de ma vie. Et à chaque fois, ça m'a apporté quelque chose.
C'est marrant que ça t'ait fait autant de bien. Tu sais si des études scientifiques ont pu démontrer l'aspect positif de ces jeux vidéo ?
Très bonne question, Anaïs. Et j'aimerais ajouter que contrairement à ce qu'on entend souvent, jouer, c'est pas juste une perte de temps. La science nous a d'ailleurs déjà prouvé le contraire, effectivement. Par exemple, dans une étude parue dans le journal PLOS ONE en 2017, réalisée à l'Université de Montréal, 33 personnes âgées de 55 à 75 ans ont dû jouer à Super Mario 64, 30 minutes par jour pendant 6 mois. Les participants ont passé une IRM pour mesurer leur matière grise et ont subi quelques tests cognitifs. Trois régions du cerveau intéressaient particulièrement les chercheurs. Le cervelet, impliqué dans l'équilibre et le contrôle moteur, l'hippocampe, jouant un rôle dans la mémoire, et le cortex préfrontal dorsolatéral. Résultat, les chercheurs ont observé une augmentation de la matière grise de l'hippocampe. Jouer à Super Mario 64 obligerait l'hippocampe à créer une carte mentale de l'univers du jeu, ce qui limite son atrophie liée à l'âge. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, mais bien les auteurs de l'étude. Cela pourrait aider à prévenir Alzheimer, car cette maladie touche justement l'hippocampe.
Donc en fait, jouer, ça fait aussi travailler le cerveau.
Exactement. Mais bon, ça les geeks l'avaient déjà compris. Bref, merci aux jeux vidéo pour tous ces moments, merci à mes parents de m'avoir laissé découvrir tout ça, et de m'avoir ouvert la porte de cet univers un peu à part, mais franchement incroyable. Et surtout, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté.
Bravo !
Bravo !
Merci !
Et merci pour ta chronique, Laetitia. Alors maintenant, je vais peut-être paraître un peu cliché, mais ce soir, on a la chance d'être avec toi, Laura, qui travaille dans le jeu vidéo, et je me demandais si, dans ce secteur, vous étiez nombreuses en tant que femmes à travailler.
Alors, ça se développe beaucoup ces derniers temps, mais il y a toujours peu de femmes, je trouve. mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai remarqué que notamment dans les écoles, il y a de plus en plus de femmes qui veulent entrer dans ce milieu.
Alors, juste pour avoir une fourchette peut-être dans l'endroit où tu travailles, est-ce que tu saurais me dire à peu près combien il y a de femmes pour combien d'hommes ?
Pour un studio de 50 personnes, nous sommes deux femmes.
Oh, waouh !
Pas mal.
Okay.
Ça fait 4%.
Ça fait 4%, exactement, c'est ce que j'allais dire. On voit les matheux. Oh, waouh. Et du coup, est-ce que tu ressens des difficultés avec cette minorité? Ou est-ce que tu vois une bascule? Du coup, tu avais l'air de dire que tu voyais une forme de bascule qui allait arriver progressivement. Ouais. Mais est-ce que tu ressens encore des difficultés actuellement?
Personnellement, je n'ai pas vraiment ressenti de difficultés en tant que femme dans ce milieu. Je trouve que je n'ai pas rencontré de misogynie particulière, en tout cas, de fait notable de ce côté-là. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, notamment beaucoup d'articles là-dessus. Moi, j'ai la chance d'être dans des entreprises où nous sommes plutôt écoutés, et même c'est plutôt... on va dire qu'on nous demande souvent aussi nos avis, parce qu'on peut apporter des choses très différentes. Je n'ai pas eu ces cas-là où j'ai ressenti de la différence. Par contre, des fois, il y a le questionnement de savoir si on vous remet en question parce que vous êtes une femme ou est-ce que c'est juste parce que votre idée n'est pas la bonne. C'est un milieu très très masculin, beaucoup, les idées sont forcément très souvent sollicitées par des collègues masculins. Donc quand on fait face avec deux idées différentes et qu'on ne nous donne pas vraiment une justification très approfondie sur pourquoi votre idée est rejetée, ça des fois soulève la question, est-ce que c'est parce que je suis une femme et que je suis peut-être moins écoutée qu'un homme?
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, sur le plateau.
Non.
Alors, si maintenant on s'intéresse aux joueuses, je ne sais pas si vous savez quel pourcentage de joueurs français sont des hommes et combien sont des femmes. Alors, de mon côté, j'ai fait quelques petites recherches et je vous pose la question. Parmi l'ensemble des joueurs de jeux vidéo en France, selon vous, quel est le pourcentage de femmes?
Je pense que c'est pas... C'est peut-être si, je pense qu'on peut être trompé, mais j'aurais dit, je sais pas, 30...
Ouais, 40%.
5%, je sais pas.
Et toi, Laetitia, t'as une idée? Toi qui es une geek avérée?
Je sais pas, je dirais comme toi, moi aussi. Peut-être 40, moi.
Et toi, Laura, tu as une idée?
Alors... Parce qu'il me semble avoir vu des choses passer dessus, il me semble qu'on est 60% de femmes.
Okay. Ouais, okay.
Alors, d'après mes recherches, effectivement, j'avais vu passer le 60%, mais en 2026, sachez que c'est 51% d'hommes et 49% de femmes.
Okay. D'après... Vous l'avez
arrêté. Ouais, exactement. Ouais. D'après un article rédigé par Fabien Duarte, suite à une étude menée par Exploding Topics. Alors, ce que ce chiffre ne dit pas, par contre, c'est le temps moyen passé par les hommes et les femmes sur les jeux. Et justement, bah c'est ma question. Est-ce que toi, Laura, t'as la sensation de voir autant d'hommes que de femmes jouer?
Oui, ces dernières années, beaucoup. Enfin, moi qui suis quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux en ligne, sur le PC, je rencontre de plus en plus de femmes qui jouent. Et vraiment, j'ai pas cette impression d'avoir... Enfin, j'ai jamais eu l'impression d'avoir une majorité d'hommes autour de moi. J'ai eu également beaucoup de femmes. Et ça a toujours été très fun, justement, de me faire des amis par ce moyen-là, quoi.
Ok, trop cool. Et aussi, du coup, une autre question que je me posais maintenant, dans la conception des jeux vidéo, est-ce que vous prenez en compte cette proportion de femmes? Est-ce que vous essayez de rendre les jeux vidéo un peu plus féminins pour continuer d'attirer les femmes sur les jeux vidéo? Est-ce qu'au contraire, vous essayez de plaire plus aux hommes parce que, quelque part, c'est quand même la cible majoritaire pour la plupart des jeux? Ou au contraire, vous essayez d'être neutre face au genre?
Je pense que pour beaucoup de studios, il y a un regard neuf de vouloir, par exemple, des caractères féminins hyper féminisés, ça commence un peu à disparaître parce que, oui, on a tous un peu... C'est un sujet qu'on a un peu vu et revu. Et il y a ce côté aussi de vouloir apporter un peu plus de... un côté féminisant aux jeux vidéo, notamment des principes un peu plus féministes aussi, en mode c'est la parité, c'est l'égalité, on essaie d'avoir autant de personnages féminins que de personnages masculins. On essaie vraiment d'apporter un peu plus d'égalité de manière générale dans l'approche du jeu vidéo. De là à dire qu'on cible spécialement des joueuses sur le jeu, je suis pas sûre non plus. Je pense que tout dépend également du type de jeu qu'on fait, parce que je pense que par exemple un jeu à la Animal Crossing vise en effet beaucoup plus un public féminin qu'un public masculin, mais un jeu comme Call of Duty, je pense, vise quand même malgré tout beaucoup plus un public masculin que féminin. Donc je pense que tout est une histoire aussi d'approche du thème du jeu que le studio veut développer.
Ok, ok. Et en tant que passionné de jeux vidéo, je suppose donc que tu joues, est-ce qu'en 2026, c'est facile de jouer en tant que femme à tous les jeux où il y a encore des discriminations dans certaines communautés ?
C'est plus facile qu'avant, dans le sens où déjà, on a la chance d'avoir des créateurs de contenu aussi qui montrent qu'on peut être une femme et qu'on peut jouer.
Exactement. Est-ce qu'il y a quelques, par exemple, streamers que tu pourrais donner comme ça, qui peuvent inspirer certains
Moi, je sais que je trouvais que Bagheera Jones était très intéressante de ce côté-là, donc avec Horty, avec qui elle est souvent en live. J'avais rencontré des plus petites streamers, streameuses aussi qui démarraient. Je pense également à Angle Droit et Dame Dame et tout ça. Enfin, tout le monde apporte un petit peu son lot et je trouve ça hyper intéressant parce que t'en as, par exemple, Dame Dame est beaucoup sur des jeux plutôt rétro, tandis que t'en as d'autres qui sont vraiment sur les tout derniers jeux sortis, donc c'est vraiment très intéressant. Et pour ce qui concerne sur la misogynie dans le jeu vidéo, il y en a malheureusement toujours encore, même notamment dans les jeux en ligne. Je veux dire, ça arrive régulièrement que si vous êtes une femme et que vous ouvrez votre chat vocal pour parler, pour communiquer sur ce qui se passe en jeu, vous allez vous reprendre des remarques parce que vous êtes une femme. Ou alors vous allez être confondu pour un jeune garçon. C'est possible aussi.
Et ce qui est dommage d'ailleurs. Et une dernière petite question, est-ce que tu as un conseil à donner à des femmes qui n'osent pas franchir le cap de jouer en ligne ou de se lancer dans les streams de jeux vidéo autres ?
Faut se lancer dans le sens où ça serait dommage de se priver de certaines choses par rapport à ça. Il y a tellement de super choses à découvrir dans le jeu vidéo et pour tout le monde, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont déjà présents sur les différentes plateformes. Il y en a forcément un qui va vous correspondre d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas avoir peur de trois idiots qui vont penser mieux savoir que vous. Non, vous êtes là pour vous faire du bien à vous et il n'y a que vous qui vous connaissez. Donc, lancez-vous, faites-vous plaisir, recherchez du fun là-dedans. Et si un jour, ça vous frustre trop, vous êtes contrarié parce que vous n'arrivez pas à avancer, posez la manette, allez faire autre chose et... Allez prendre l'air, marcher, c'est très 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 bien. Et revenez dessus après, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple.
Alors, discuter, c'est sympa, mais en tant que geek, est-ce que ça te dit une petite partie ?
Allez.
Alors, pas de Mario Kart ce soir, mais Tama, tu nous as préparé ton meilleur caps ou pas caps ?
Absolument.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Donc ce jeu a été conçu en grande surprise pour absolument tout le monde, car sauf la régie qui a triché en regardant le nom des fichiers, personne ne sait ce qui vous attend. Et bien c'est un blind test de manière très originale. J'ai pris des musiques de jeux vidéo assez connus, j'ai surtout couvert, on va dire, les 30 dernières années. Normalement, il y en a pour tout le monde, mais un accord a été fait sur le plateau que Jade aura les points doublés du fait de sa connaissance en jeux vidéo peut-être un peu moins grande. Donc pendant les 6 prochaines minutes, bon maintenant 5 et demi on va dire, des musiques vont apparaître. La première personne qui cite le jeu gagne 2 points et okay. Il y aura une question bonus. Si vous répondez correctement, vous gagnez le 3e point. Sinon, une autre personne peut tenter de répondre pour voler votre dernier point. Première musique, s'il te plaît, Emma.
Mario Odyssey.
Ouais, bonne réponse, ouais. Mario Odyssey. Ta question, Laetitia, c'est de quelle ville Pauline est-elle la mairesse dans Super Mario Odyssey ?
Oh là 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 là.
C'est une folie cette question.
Je ne te cache pas que je me rappelle que de la robe rouge de.
Petit indice, c'est New quelque chose City. Non, ce n'est pas New York.
Champignon City.
Non, c'était New Dunk City, non. Malheureusement. Oh, tu as 2 points, c'est déjà pas mal.
Non, c'est déjà bien.
Musique suivante, s'il te plaît, Emma.
Mario.
Ouais, ouais. Mario. Doublé, doublé. Deux points pour Jade.
Non mais...
Tu fais doublé.
C'est quoi des...
C'était Mario Kart.
Ah ok.
Mais petite question pour toi Jade, on peut remettre un peu de musique si vous voulez laisser tout doucement. Quel est le nom du circuit lié à Mario Kart ?
J'ai déjà la musique. Ouais, je l'aurais pas.
C'est la plage.
Non.
C'est pas l'arc-en-ciel ?
Non. Une dernière essai ?
Le gorge champignon ?
Non, c'était le supermarché Coco.
Supermarché Coco.
Bien joué. Ouais, Sarah l'a eu. Bon, je te mets dans les points, Sarah. Musique suivante, s'il te plaît, Emma.
C'est Mario aussi ?
Non.
Ça peut pas être que Mario tout le temps.
J'ai l'impression.
Ouais, bien joué, c'est Super Smash Bros. Brawl. Et ta question, alors là, c'est un questionnaire à choix multiples. Quel personnage parmi les 3 suivants n'a jamais été dans Super Smash ? Est-ce Waluigi, Pikachu ou l'entraîneur Wii Fit ?
Il me semble que c'est Waluigi.
Bonne réponse. Et oui, l'entraîneur Wii Fit a été ajouté. Ça te fait donc 3 points. Félicitations. Musique suivante. Désolé, tu t'es fait voler les poids par Anaïs. Et la question bonus. Pourquoi, à ton avis, enfin ça a été prouvé d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait la popularité de Animal Crossing New Horizons concernant sa date de sortie?
Bah, le fait que ce soit arrivé en plein confinement.
Non, je donne un point et demi à Anaïs, on va dire. Ce sera un de
voilà.
Si
d'oublier.
La régie peut se contenir, s'il vous plaît, ce serait top. Musique suivante, s'il te plaît, Emma. Alors, faut bien l'écouter.
C'est Minecraft.
Ouais, je suis désolée.
J'ai rien entendu.
C'est une petite musique ASMR. Okay. Ta question pour le point bonus, quel est le nom du protagoniste de Minecraft?
Steve.
Bien joué.
Oh, wow.
C'est là qu'on voit que c'est une experte. Points.
Ouais.
Non mais attends, j'avais le nom de la ville. J'avais le nom de Steve.
Déjà, est-ce que tu savais que c'était Steve?
Ben oui.
Voilà. Non, mais
je... Bien sûr,
évidemment.
Musique suivante, s'il vous plaît.
Kirby?
Ouais.
Oh, mais
très
oui,
bonne
Kirby.
Réponse. C'est wow. Gourmet Trace de Kirby qui quand même est sorti en 1992, donc il est plutôt jeune Kirby, il a des petites rides. Ta question. Comment s'appelle l'ennemi juré de Kirby?
Oh là là, Thomas, je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un veut tenter de répondre pour voler le dernier
la
point?
La régie cette fois?
Ah. Ah, la régie a fait moins de bruit là quand même.
Non, ah, je sais plus.
Non, je
c'est
sais
le
plus.
Roi...
Dagobert.
Franchement, c'est le roi d'Adidou, elle a une syllabe. On peut lui donner un tiers de point. Allez, un tiers de point pour Jean.
Oh, j'adore.
Bon point, j'espère.
On est pour le communisme ici. Ah, musique suivante, s'il vous plaît.
Ah bah, clair obscur.
Ouais, bah, ouais. Laissez quand même quelques notes, quand même.
J'avoue.
Alors, ça fait donc 2 points de plus pour Laura. Et la question... Ouais, non, c'est trop facile si je pose ça. Quel est le nom de la ville dans Clair obscur?
C'est... Lumière.
Ouais, bien joué. Parce que ma question de base était sur quelle ville est basée Lumière. Bon.
Justement, j'ai hésité à dire Paris. C'est je pas... me suis dit non, c'est pas le nom
ça
de la
aurait
ville.
C'était un bon piège. C'était un bon piège. Musique suivante, s'il vous plaît, en régie.
C'est.
Alors, c'est un remix d'un jeu très connu parce que la musique.
Non.
J'avoue, ça fait un peu Zelda.
C'est pas avec.
C'était Tetris. Je sais pas les points entre vous parce que elle a. Voilà. J'avais essayé quand même.
Merci.
Je mets un point à Jade et un point à Anaïs. Et la question est, quel événement récent a eu lieu concernant Tetris qui a été réalisé par un enfant de 14 ans?
Ça n'y avec Just Dance?
Non.
Ah, j'ai aucune idée.
Non, quelque chose qu'il ne pensait pas être faisable et qu'il a réussi à faire.
C'est
il
fini
a, il l'a fini.
Ah,
il a réussi,
non, mais
il a réussi,
c'est vrai,
il a réussi à faire bugger Tetris tellement il allait loin dans le jeu, ce qui du coup a provoqué la fin de Tetris. Donc il a battu Tetris, un jeu qui normalement est sans fin.
Oh, wow.
Ses doigts sont fulgurants. J'ai vu le live, c'est absolument terrifiant. Il est focus.
Okay.
Musique suivante, s'il vous plaît. Anaïs, là, sur le... C'est un jeu sorti en 1981.
Ouais, nice.
2 points.
Merci Anna de la régie.
Et oh non,
Thomas, retire-moi ces points, s'il te plaît.
Un point pour Anaïs. Ta question bonus est, quels sont les neveux de Donkey Kong? J'en veux 2.
Diddy Kong.
Ouais, et il faut l'autre. C'est...
Non, j'aurais pas le deuxième.
C'est Dixie Kong.
Ah ouais, autant Diddy.
Allez, un demi. Ouais, je suis très généreux, j'adore donner des points comme ça. Musique suivante, s'il vous plaît. J'ai eu un regard de
mal. Super.
Est-ce qu'on peut la laisser un tout petit peu plus quand même, que les gens puissent... Voilà. C'est Obstacles de Sid Matas qui est une excellente chanson.
Ah ouais, c'est super.
Je pense qu'elle a cassé la régie.
Pardon.
Ta question, Laetitia, quel est le nom... Tu vas me tuer. Quel est le nom de la ville?
Arcadia B.
Ah, bah, désolé.
Mais enfin, t'avais l'air de répondre.
Aïe, 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 les problèmes. Est-ce qu'on a combien de temps encore? Est-ce que c'est bon pour quelques chansons? Je pense qu'on a le temps pour une chanson encore.
Une dernière.
Allez, on va multiplier les points pour 2, celle-là, donc pour 4.
Ouais, bon, allez.
Je m'accroche.
T'as encore vu comment tu comptes les points, Thomas?
Ouais, j'adore. J'étais comme ça en prof, hein, c'était bien. Ah oui, alors ça, c'est une musique. Non, en vrai, je vous laisse un peu deviner, je vous donnerai des indices après. Elle est géniale, hein. Franchement, c'est un banger. Et il y a eu un cover sur Tunak Tunak qui est excellent aussi.
Ça me dit quelque chose.
La personne qui trouve, c'est un jeu où vous allez devoir affronter Changjian, Baojian, Dinglu, Yuyu, les trésors du fléau qui ont été offerts à un roi, qui ont été corrompus par l'avidité des hommes.
Est-ce que c'est Assassin's Creed ?
Non, c'est beaucoup, c'est une franchise super connue qui s'est récemment mise à faire des musiques très techno, très chouette.
Très connue vraiment ?
Ouais. On a tendance à y favoriser.
Pokémon.
Ouais !
Ah
ouais,
parce que t'as dit que c'est connu.
Non mais j'ai...
Je suis désolé, mais Jade vient de marquer du coup 8 points.
Eh ben j'ai...
Je vois la régie qui est outrée de mon combat. Et du coup ta question
j'ai
pour tenter
question,
de mettre encore plus de points. Celle-là je vais la mettre à 3 points parce qu'elle est très dure, tout le monde a le droit de répondre.
Okay.
Combien y a-t-il de Pokémon aujourd'hui ?
478.
J'accepte une marge d'erreur de 20, on va dire.
478 ?
C'est faux, c'est
beaucoup plus.
Plus,
ouais.
678 ?
C'est plus.
Bon, attends, mais
1200. Jade a quand même une petite paix. On s'approche, mais c'est moins.
780.
Plus.
842.
On va essayer jusqu'à 42, c'est plus.
Ok.
938.
C'est plus.
1500.
C'est moins.
1980.
Alors on arrive à la fin, c'était il y a 1025.
Putain, j'allais dire 1024.
Et donc voilà, donc avec une victoire haut la main, c'est étrangement Jade qui a fait une remontada à la dernière seconde.
Merci,
félicitations.
Alors merci Tama pour ce super moment, et parce qu'on n'a pas eu assez de musique, je vous propose tout de suite d'écouter It Isn't Real, pardon pour mon accent anglais, de Fantasy Guys. Sur l'émission L'Happy Hour Scientifique. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Laura pour parler jeux vidéo.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Et sur notre plateau, nous retrouvons de nouveau Anna et nous accueillons Sarah.
Salut.
D'ailleurs, je pense qu'il est temps de passer au niveau supérieur et d'écouter votre chronique. Anna ? Sarah ? c'est à vous là les filles.
Sweet.
Meuf, t'es sérieuse? Tu joues encore à Candy Crush en plein live? On a quand même une chronique à faire là.
Oh meuf, je suis désolée, mais je te jure, je suis redevenue accro à ce jeu, c'est une dinguerie.
Oh là là, Anna, on dirait une daronne de 55 ans, ça va pas du tout.
Ah non, mais c'est dingue, je me faisais chier au taf la dernière fois et j'ai re-téléchargé toutes les applis de jeu. Candy Crush, Heyday, Geometry Dash, toutes. J'ai l'impression d'être devenue addict. Je sais pas, ça me procure une sorte de bonheur, de détente, ouais, j'explique pas trop quoi.
Mais tu sais que ce que tu ressens, c'est pas juste une impression. Hein. C'est propre à tout le monde. J'ai lu d'ailleurs récemment que quand tu joues à des jeux type Candy Crush, à chaque fois que tu alignes 3 bonbons et que tu entends le son de la victoire. cerveau, à ce moment-là, libère une molécule, la dopamine.
Ah mais attends, la dopamine, c'est pas le truc, là, la fameuse
hormone du bonheur, là ?
Oui, alors on dit souvent l'hormone du bonheur, mais c'est pas vraiment ça. La dopamine, c'est surtout la molécule de la motivation et de la récompense. Elle est là pour te donner envie de recommencer à jouer.
Donc en gros, mon cerveau, ça lui plaît, il me dit « vas-y, vas-y, rejoue ».
Oui, oui, c'est ça. La dopamine, elle crée une sensation de satisfaction et ça va renforcer ton comportement. Quand tu joues, à chaque petite victoire, ton cerveau enregistre que c'est agréable et t'y retourne.
Ok, je comprends. Mais comment un jeu de téléphone aussi simple et répétitif peut autant me rendre accro ?
Bah parce qu'il est conçu pour ça. Candy Crush utilise ce que l'on appelle le système de récompense aléatoire.
C'est-à-dire ?
Tu sais jamais vraiment quand tu vas gagner, quoi. Tu vas jouer 4 fois de suite, au niveau 147, ça va te saouler, mais tu veux réussir et là, bam ! Au 5e essai, victoire ! Mais cette victoire, elle est inattendu. Ça va libérer une dose massive de dopamine qui est bien plus importante que si tu avais gagné du premier coup.
Parce que ça change quoi de gagner au premier coup ?
Ah oui, ça c'est un truc que je t'ai pas expliqué. C'est que la dopamine est libérée quand tu as une victoire, mais aussi en anticipation à la victoire. En gros, au début du jeu, tu vas gagner tout le temps et très vite parce que le niveau est facile. Tu vas te sentir trop forte et avoir la sensation de battre en continu la machine. Des shots de dopamine vont être libérés dans ton corps à chaque fois. Les créateurs et créatrices vont espacer les moments où tu gagnes pour te faire rester sur le jeu jusqu'à recevoir à nouveau ton petit shot tant attendu. Et c'est ça qui procure encore plus de plaisir. En somme, tu te fais manipuler, quoi. Et c'est pas tout.
Oh là là, mais t'es sûre que j'ai envie d'en savoir plus, là ?
Mais oui, t'inquiète. En gros, il y a plein de stratégies utilisées pour nous rendre dépendants. En créant le jeu, il se base sur le fait que notre cerveau reconnaît les formes et les couleurs. Ça s'appelle la Gestalt théorie. Ton cerveau va interpréter les formes et les couleurs et tu vas avoir envie de les identifier et de les remettre dans l'ordre. Les bonbons ronds avec les bonbons ronds, les carrés avec les carrés. Dans ce genre de jeu comme Candy Crush, il y a énormément d'effets visuels et sonores qui arrivent d'un coup. Mais ce n'est pas que pour faire joli. Ça va venir activer tous tes sens. Bref, tu as compris l'effet dopamine. C'est ça qui te donne envie de rester, quelle que soit la stratégie utilisée.
Mais c'est dingue, tout est réfléchi en détail, quoi.
Oui, oui, exactement. Après, je te comprends de fou, tu vas te foutre de ma gueule, mais ça m'arrive de mettre des chansons de jeux vidéo pour bosser, même celles de Mario Bros, quoi. J'ai l'impression que ça m'aide à me concentrer.
Attends, ça me rappelle un article que j'ai lu récemment.
Ouais, c'était pas plutôt une vidéo TikTok ?
Ouais, bon, ok, j'avoue. Mais après, je suis vraiment allée me renseigner, je te promets. Il y a le reportage d'Arte qui s'appelle « Pourquoi la musique est aussi importante pour les jeux vidéo ?» que je te conseille vraiment. Bref, je vais t'expliquer. Ça fait longtemps que les effets de la musique sur le comportement sont étudiés. Un des plus célèbres, c'est l'effet Mozart. En 1993, la psychologue Frances Raucher fait une expérience. D'un côté, on a des volontaires qui écoutaient la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, et de l'autre, c'était silence. Ensuite, on leur demandait de faire des tests de logique. Résultat, le groupe ayant écouté Mozart obtient de meilleurs scores que les autres. Et pour l'anecdote, même si l'étude n'avait pas de fonds scientifiques prouvés, ça n'a pas empêché les gouverneurs du Tennessee et de la Géorgie de distribuer des CD de Mozart à tous les nouveaux-nés.
Ah ouais, carrément, mais ça a quoi à voir avec les jeux vidéo ?
J'y viens. En fait, la musique de jeux vidéo, elle a pas de parole, elle a toujours un volume constant et très uniforme. C'est toujours la même chose, en boucle, et ça c'est fait exprès. Elle est conçue et réfléchie spécialement pour maintenir l'attention et l'engagement durant de longues heures. Selon la neuroscientifique Judith Lucier, certaines personnes sont plus efficaces quand leur attention est scindée en deux. On a un stimulus monotone et répétitif, exactement comme une musique de jeux vidéo, qui leur permet de canaliser le surplus d'énergie cognitive et de rester attentif à leur tâche principale, sans être distrait par tous les autres bruits environnants. Non. D'un côté musique, de l'autre travail. Les joueurs entrent dans un état de flow et de balance parfaite.
Ah, et ça c'est aussi peut-être lié à la dopamine.
Ah mais oui, exact. Sans doute que le cerveau a du coup l'impression qu'il reçoit plein de récompenses. Et tu sais qu'aujourd'hui, les grosses productions avec plein de thunes, elles n'hésitent pas à recruter de véritables orchestres professionnels pour créer leurs bandes-son. Tu te rends compte ? T'es là, tu joues à Mario, et en fait t'as peut-être un orchestre symphonique qui est derrière ça.
Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc en gros, je peux dire qu'à chaque fois que je joue, j'écoute de l'opéra. La classe. J'ai encore plus de raisons de jouer en fait.
Alors de 1, t'abuses, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et de 2, faut qu'on fasse gaffe quand même à notre consommation de jeux vidéo, parce qu'on peut vite tomber dans l'addiction. Regarde, le mois dernier, il y a mon petit cousin, bon lui c'est un grand fan de Brawl Stars, hein, qui a été diagnostiqué avec un gaming disorder. Bon, j'ai pas tout compris à ce que c'était, mais ça avait l'air vraiment sérieux.
Ah mais tu sais que dans un sens, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'il soit pris en charge. Parce qu'il y a quelques années, c'était pas du tout reconnu le gaming disorder, ou plutôt en français, le trouble du jeu vidéo.
Ah bon ? Pourtant, ça fait un bail qu'on prend en charge les addictions.
Oui, c'est vrai, mais pas celle-ci. Pour t'expliquer un peu plus historiquement, les addictions comportementales sont devenues petit à petit un enjeu majeur de santé publique. En mai 2019, le trouble du jeu vidéo, ou gaming disorder, est officiellement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et est inscrit dans la classification internationale des maladies. Les personnes atteintes de gaming disorder peuvent avoir plusieurs symptômes, comme l'anxiété forte, le trouble du sommeil, le décrochage scolaire, voire même la dépression.
Mais comment on fait en fait pour savoir si on a une addiction ?
Eh bien, il y a des centres de dépistage et de diagnostic qui ont été mis en place.
Et depuis la qualification, comme elle dit, il y a des trucs qui ont changé ?
Eh bien, pas tellement, même des fois au contraire. Et question éthique, les créateurs et créatrices oscillent entre les enjeux sanitaires et rendent leur jeu très attractif. Justement, ton petit cousin qui joue à Brawl Stars, c'est pas le seul. Le pédopsychiatre Oliver Fan annonce que 2 à 10% des adolescents présentent un usage excessif des jeux vidéo nécessitant une prise en charge spécialisée. Le jeu Brawl Stars, en plus de ses mécanismes de récompense, il impose aussi un sentiment de dépendance. Il y a comme une crainte de tout perdre, quoi, si on arrête de jouer. Et évidemment, il y a une énorme pression sociale entre les copains-copines au collège ou au lycée de savoir qui sera le plus fort, la plus forte à ce jeu. Et ça, d'après les experts, ça joue un rôle fondamental dans le rapport au jeu et l'impact sur la vie sociale et scolaire des jeunes.
Et on peut rien faire du coup ?
Si, heureusement que des services existent comme Joueurs Info Service depuis 2016. C'est une ligne d'écoute que n'importe qui peut appeler au 09 74 75 13 13 et qui promet un accompagnement neutre, sans jugement et anonyme.
Ok, tant mieux, ça me rassure. Bon, par contre, meuf, je viens de réaliser qu'on a complètement zappé la chronique.
Là. Oh là là, ouais, merde.
Ouais, je suis désolée. Hein.
Les filles, on vous entend depuis tout à l'heure, en fait.
Ah, mince.
Désolée, bon, bah, on espère que notre petite discussion vous a quand même intéressé. Promis, on sera plus concentré la prochaine fois. Sur ce, on vous laisse, on a quelque chose à faire.
Quelque chose à faire.
Sweet.
Merci beaucoup Anna et Sarah. Alors pour continuer sur le sujet des vidéos, je propose qu'on reprenne rapidement l'interview avant la fin de l'émission. Du coup Laura, est-ce que tu, pour changer complètement de sujet, j'ai envie de parler un petit peu de l'intelligence artificielle dans le secteur du jeu vidéo. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans ton travail ?
Oui, mais à des fins surtout de conceptualisation ou de placeholder. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans l'industrie, d'utiliser l'IA pour faire des assets, comme je disais tout à l'heure, ou des textures de manière très temporaire. On utilise la génération d'images pour avoir des rendus visuels très rapides de ce que ça pourrait être. Mais dans l'idée, tout ça est censé être remplacé ensuite. C'est-à-dire que c'est qu'un outil. L'IA est vraiment utilisé comme l'outil, mais pas comme aspect créatif dans le jeu. C'est juste pour faciliter la production, accélérer un petit peu le processus de prod, et c'est tout. Ensuite, on remplace. Il y a forcément un cerveau créatif derrière qui va retravailler des idées, qui va en apporter d'autres. Donc, moi, j'utilise l'IA, en effet, au travail, qu'en phase d'early concept.
Mais je me dis, même si on l'utilise que pour de la texture, des choses comme ça, est-ce que finalement l'utilisation de l'IA, ça ne va pas uniformiser les jeux ? J'ai la sensation qu'il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des jeux qui se développent et qui sont mis en ligne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un lien entre justement l'arrivée de l'intelligence artificielle et cette explosion ? Est-ce que finalement s'en servir, bah, ça ne va pas impacter justement la qualité et la différence qu'on peut avoir entre tous ces jeux et finalement du coup la créativité par...
Si, bien sûr. En fait, c'est tout le souci de l'IA, c'est que ça rend une chose très, très lisse, très, très générique. On perd énormément en termes de qualité créative, d'idées, d'art original, parce qu'on utilise l'IA à tout bout de champ. Donc, il faut vraiment doser son utilisation de l'IA pour que ce soit quelque chose de juste. En effet, je trouve que l'utilisation pour faciliter la production, c'est pratique. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas ça qui va donner une âme au jeu. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et l'IA n'est pas capable de faire ça. Donc c'est quelque chose qu'un artiste, un créatif derrière, quelqu'un qui a des idées, va peaufiner et approfondir. Donc plus on utilisera de l'IA, plus on fera des jeux très génériques et lisses. Parce qu'il y a cet aspect où ça manque d'âme en fait, ça manque de profondeur.
Donc finalement, si on veut des bons jeux vidéo, on est obligé d'avoir des vrais gens derrière. Et pour toutes les personnes, peut-être étudiants, qui se demandent s'ils peuvent pas travailler dans le milieu du jeu vidéo, c'est peut-être un peu réconfortant de se dire que, bah non, l'IA ne va pas complètement les remplacer. Et d'ailleurs, pour ces personnes, peut-être il y a des étudiants qui nous écoutent actuellement, ou d'autres personnes en reconversion qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans la création de jeux vidéo. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, des tips? Peut-être qu'il y a des écoles qui permettent d'intégrer ce genre de formation?
Oui, bien sûr. Il y a différentes écoles. Sur Paris, il y a l'ISA. Moi, j'ai fait Rubica, Supinfocom. Enfin, j'ai fait la partie com qui est une partie animation, mais ils ont également une filière dans le jeu vidéo qui s'appelle Supinfogame. En tout cas, les gens peuvent se rassurer. En effet, je ne pense pas que les gens dans le jeu vidéo, se feront remplacer par l'IA. Il faut toujours de la créativité. Donc, pour les étudiants qui sont dans ce parcours, continuez de créer, continuez d'être curieux de tout, parce que la curiosité, c'est ça qui va vous rendre créatif et inspiré, et qui va créer des jeux inspirants pour les autres. Et toujours être passionné dans ce que vous faites et de vouloir partager cette passion.
Trop cool. Et moi, j'ai une autre question aussi que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre travailler dans le jeu vidéo et travailler dans l'animation pour des dessins animés ou des choses comme ça, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est presque la même chose. Alors, je me trompe peut-être beaucoup.
C'est des métiers qui sont très proches, dans le sens où on utilise les mêmes outils. Il y a beaucoup de conceptualisation en termes de processus qui sont pareils. Mais ça reste quand même des métiers très différents, parce qu'il y a des notions de... En fait, c'est très différent juste parce qu'il y a des notions de cadre fixe dans un film, tandis que dans un jeu vidéo, la caméra est très libre. C'est le joueur qui décide où regarder. Donc, il y a des... Comment dire, des étapes qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on va être dans l'optimisation le plus possible pour que ça puisse tourner et en même temps être en temps réel, tandis qu'en cinéma d'animation, c'est de l'image précalculée. Donc, une image peut être générée en une heure et ça apporte généralement beaucoup plus de détails, beaucoup plus de profondeur. Donc, les modélisations sont travaillées différemment aussi.
Alors, on arrive maintenant à la fin de l'émission. Je voudrais remercier toute notre équipe de geeks pour ce numéro très réussi. Merci à toi, Laura, d'avoir été disponible et d'avoir répondu à toutes nos questions. Un grand merci aussi à Emma et Jocelyn à la régie et à nos super chroniqueuses, Anna, Sarah, Laetitia, Tama et Jade, pour leur participation. Et pour vous qui nous écoutez, on se donne rendez-vous à la prochaine émission de l'Happy Hour Scientifique fin avril. L'émission sera disponible en streaming dans les jours à venir. Donc d'ici là, on n'hésite pas à nous suivre sur le réseau @HHSScientifique et d'aller découvrir toutes nos précédentes émissions sur votre plateforme de streaming préférée. Bonne soirée à tous.
Des bisous.
Bon, ben, y a messieurs, hein. À la prochaine.